Il dit on ne peut pas saisir le surgissement du monde dans sa nouveauté. On pourrait dire un peu comme si on était à la place de Dieu, qui pose un monde entièrement nouveau, qui n'est pas lui. On ne peut pas le montrer ex parte mundi. Donc, à partir des morceaux du monde, à partir de l'analyse des sous-systèmes du monde, si vous voulez. Donc, que le monde n'ait pas toujours été, c'est-à-dire que ce monde est surgi dans sa nouveauté ontologique, ça, c'est seule la foi qui peut le dire. Parce que selon la raison, dit saint Thomas, on ne pourrait pas vraiment établir ce que c'est ou si ce monde a surgi, comment ce monde a surgi de Dieu à partir de rien, à partir ex nihilo subjecti, à partir d'aucune matière préexistante, etc. Ça, on ne peut pas le saisir par la raison. Vous voyez ? Alors ça, c'est très intéressant. Parce que, dans le fond, saint Thomas dit, ce qui est capital pour la théologie de la création, pour la création, ce n'est pas le commencement. Ce n'est pas une notion de commencement. D'ailleurs, on le voit bien, hein. Regardez la place. Regardez ce que disent aujourd'hui un certain nombre d'auteurs. On a l'impression qu'ils vont réduire la création simplement à un effet à un moment donné. Alors que la création se déploie sur toute l'histoire de l'existence du monde. Et cet acte par lequel Dieu soutient le monde dans son être, c'est aussi bien aujourd'hui qu'hier, demain s'il le veut. D'accord ? Ça donne à la création une extension extraordinaire. Dieu, c'est bien cette relation par laquelle Dieu est proche, tout en faisant un monde qui n'est pas lui, mais Dieu est toujours au contact du monde pour le soutenir dans son être. Ça, c'est la création. Et ce n'est donc pas une question d'un petit moment, d'une chiquenaude, ou le doigt de Dieu qui tourne dans la mayonnaise du monde pour lui donner sa dynamique. The finger of God agitating the atom, disait Jeans, le doigt de Dieu qui tourne dans l'éther pour lui donner sa dynamique. Hein. Mais ça, dans le fond, alors c'est peut-être beau, mais théologiquement, c'est affreux. Parce que ça veut dire, Dieu n'est plus qu'un processus mécanique, immergé dans les causalités. Il n'est plus transcendant. Vous voyez ? Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Thomas distingue lui aussi le commencement, surgissement du monde dans sa nouveauté, ce qu'on pourrait appeler le commencement ontologique du monde, distingue de création. Bien sûr, il dit quod mundum non semper fuisse, cela fide tenetur. Donc, ça veut dire que dans la théologie de la création, on est tenu de croire qu'il y a comme un surgissement ontologique d'un monde dans sa nouveauté. D'accord ? Mais commencement n'est pas création. Et dit saint Thomas, logiquement, on pourrait imaginer que Dieu ait créé un monde à temporalité infinie. Alors, Thomas dit, bon, ça on l'écarte, mais logiquement, ce n'est pas impossible. Parce que Dieu a pu créer, qu'est-ce que ça veut dire créer ? Ça veut dire que l'existence du monde dépend de Dieu. Et dans le fond, ce que dit saint Thomas, c'est que même si le monde durait pendant un temps infini, ce monde existerait. Et s'il existe, on devrait expliquer pourquoi il existe. Et on serait renvoyé à la cause créatrice. Dieu étant capable de créer un monde à temporalité infinie. Donc ce ne serait pas un obstacle à la création si le monde avait une temporalité infinie. Parce que même si c'est une temporalité infinie, ce n'est rien au regard de l'éternité de Dieu. Ce n'est pas un obstacle. Ce monde existerait depuis un temps infini, donc il existerait. S'il existe, il faut une cause. Et ça n'évacuerait pas le recours nécessaire à la cause divine. D'accord ? Oui. Parce que saint Thomas le rejette non seulement parce qu'il ne croit pas en l'infini actuel empirique, mais aussi parce qu'il dit que le fait de penser à un monde qui surgit dans sa nouveauté, et donc un monde que nous percevons avec un âge fini exprime mieux cette dépendance du monde vis-à-vis de Dieu. Mais logiquement, la définition de la création comme relation est tout à fait compatible avec l'existence d'un monde à temporalité infinie, donc avec un passé infini. Pour la simple raison que l'infini n'a pas de commune mesure avec l'éternité de Dieu. L'infini, c'est le très grand empirique, si vous voulez. Et Dieu est beaucoup plus grand que tout ce qui est empirique, puisqu'il est la cause de tout ce qui est. D'accord ? Donc même si le monde avait une spatialité infinie, une temporalité infinie, rien n'empêcherait qu'on pose de la même façon la question de la création. D'accord ? Et si je vous ai montré ici au tableau qu'il y a autant de points dans un segment fini que dans une droite infinie, ça veut dire que la temporalité continue finie pose autant de problèmes que la temporalité infinie. Aujourd'hui, un scientifique qui aborderait des questions de rapport science et foi se dirait, mais il y a autant de difficultés à penser un continu fini qu'un continu infini. De moins l'infini à plus l'infini, il y a autant de difficultés à penser ce continu-là que de penser le continu entre 0 et 1. Puisque je vous l'ai montré, il y a autant de points. Donc c'est aussi compliqué à penser l'un que l'autre. Et on n'imaginerait pas qu'il y ait une difficulté pour Dieu de créer un segment fini. Donc on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas créer une droite de moins l'infini à plus l'infini. En fait, ce qui est en jeu là-dedans, c'est que même la temporalité infinie n'est pas un obstacle au pouvoir créateur de Dieu. Parce que c'est simplement, la temporalité infinie, c'est encore l'extension de quelque chose qui est empirique et qui existe empiriquement, mais qui serait très grand. Ok ? Sans limite. Mais ça, c'est pas un obstacle. Parce que même cette droite infinie, si vous voulez, même ce monde qui existerait depuis t égale moins l'infini jusqu'à t égale plus l'infini, mais ça ne nous dérange plus puisqu'on sait qu'il y a autant de points qu'un segment fini. Mais bon, subjectivement, psychologiquement, ça semble être un obstacle au pouvoir créateur de Dieu. Mais si tous ces points existent, même très loin à gauche et très loin à droite, ces points existent. Donc, il faudrait expliquer pourquoi ils existent et non pas plutôt ne pas exister. Et donc, on devrait recourir, si on a la foi, à l'idée d'un Dieu qui crée, qui pose dans l'existence ces points-là. D'accord ? Donc ce ne serait pas un obstacle à l'existence d'une relation qui pose les points dans leurs êtres, dans leur être. Vous voyez ? C'est ce que disait saint Thomas. Mais saint Thomas dit, comme il ne croit pas à l'infini actuel, mais aussi parce qu'il dit que imaginer, dans le fond, une temporalité finie, ça exprime mieux ce sentiment de dépendance du fait que le monde en lui-même est circonscrit et exprime mieux alors le fait qu'il est dépendant de cette relation créatrice. D'accord ? Mais quand saint Thomas parle de que le monde n'est pas toujours été et qu'il parle de la raison en disant « novitas mundi », il veut dire, dans le fond, que ce concept de surgissement du monde dans sa nouveauté, ça, la pensée ne peut pas, la pensée scientifique, la pensée simplement rationnelle, ne peut pas la décrire. Vous voyez, il y a quelque chose que, on ne peut pas décrire le surgissement du monde, ou bien la venue au monde du monde, du point de vue de Dieu. La raison ne peut pas faire ça. Non pas parce que c'est irrationnel, mais probablement, comme dit Joseph Pieper, un philosophe et théologien apprécié par Benoît XVI, il dit, c'est pas que ce soit obscur ou irrationnel, mais il y a trop de lumière qu'on en serait ébloui. On ne peut pas penser ça. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on ne peut pas penser, non pas parce que c'est irrationnel ou déraisonnable, etc., mais c'est parce que c'est trop profond. Ça dépasse notre entendement. D'accord ? Bon. Donc, il faut se méfier des liens trop rapides entre commencement et création, parce qu'on risquerait de faire du début le seul lieu où Dieu agit, ou de faire de Dieu simplement une cause physique. Et on retomberait dans le concordisme, qui est une forme de panthéisme finalement, d'immersion de la transcendance dans l'immanence. Alors, Georges Lemaître a dit, la physique peut décrire un commencement naturel, donc, et on aurait, si vous voulez, trois concepts en jeu ici. On aurait création au sens théologique, on aurait commencement au sens ontologique, et on aurait au niveau scientifique le commencement naturel. Donc ce sont trois concepts que l'on doit distinguer pour bien comprendre que Big Bang n'est pas création. Mais immédiatement, les gens vont dire, oui, mais si le maître a décrit un commencement naturel, c'est parce qu'il était prêtre et il a voulu réintroduire la création à l'intérieur de la physique. Et ils vont commencer à se moquer de cette théorie, disant que le monde a commencé. Et c'est l'origine du mot Big Bang. Hein, le mot Big Bang, c'est une plaisanterie, en fait, inventée par un astrophysicien anglais, Fred Hoyle, qui détestait cette théorie parce qu'il disait justement, si on suppose un commencement naturel, on doit admettre la notion de création, et donc c'est une manière de parachuter la théologie à l'intérieur de la physique, on ne peut pas, donc il faut éliminer cette théorie, et pour s'en moquer à la BBC, il appelait ça la théorie du grand boom. D'ailleurs, quand il voyait le maître apparaître dans un amphi quelque part aux États-Unis, il disait « This is the Big Bang Man », c'est l'homme du grand boom. Mais alors, par une sorte de retour de l'histoire, en 1964, et je vais venir à mon petit dessin de l'autre côté, en 1964-65, on a trouvé les preuves d'un début explosif de l'univers. Donc on a découvert, par des mesures, toute une série de preuves que l'univers, effectivement, avait pu commencer par une sorte de, entre guillemets, explosion, puisque ça n'explose dans rien, mais avait commencé par un état très chaud, très dense, et s'était suivi une expansion. Et à partir de ce moment-là, le mot Big Bang a servi pour caractériser cette théorie dont tout le monde se moquait entre 1931 et 1964. Se moquait, et non seulement ça, mais les physiciens disaient « il faut trouver absolument un autre modèle ». Et c'est là où on voit encore que la philosophie joue implicitement. Entre 1931 et 1964, bon nombre de physiciens ont développé un modèle alternatif pour surtout éviter un début explosif de l'univers, croyant ainsi éviter la création.